Tout de suite sur le Zing, Captain de Décaphonique. Radio MDM. Bonjour à tous, revoilà le joli mois de mai et votre serviteur de Décaphonique prend un an de plus. Eh oui, ça commence à bien faire. Mathématiquement, il m'en reste moins à faire que ce qui a déjà été fait, sauf si la science... faut peut-être pas trop compter là-dessus. Quand tu vois qu'aujourd'hui, il est écrit sur les sacs de ciment « ne pas avaler », il est difficile de prévoir de quoi sera fait demain. Dans 30 ans, notre société sera revenue au niveau de Néandertal. Et dans Néandertal, il y a néant. Comme dans l'histoire sans fin, le néant absorbe tout et ne laisse plus rien, comme dans le cerveau des auditeurs d'Hanouna. Atriou. Bon, hormis le fait qu'il va falloir économiser au moins 1 milliard sur le dos des chômeurs, encore eux, mais que l'on est prêt à dépenser 2 milliards pour l'Ukraine, et le tout, sans toucher aux impôts, entendez aux impôts des plus riches, hein, à qui l'État a fait un cadeau avec la suppression de l'ISF, estimé à près de 4,5 milliards, d'après un groupe d'experts travaillant pour France Stratégie, une institution qui dépend de Matignon, hein, c'est pas une idée à moi. Alors, soit ils sont nuls en maths, soit ils nous prennent pour des quiches. Et je reste poli, hein. Ne nous énervons pas. Oh là là, le cinéma, parce qu'on veut faire chanter Aya Nakamura pour l'ouverture des JO. Eh oui, Daniel. Il y a du pouki dans le slide ou bien? Alors reprenons le brainstorming initial. Bon, alors l'affiche, on est OK les gars, là. Il nous reste la star mondiale et française qui va chanter l'ouverture des Jeux, si vous avez des avis. Est-ce qu'on a les trois chanteurs francophones qui ont cartonné, bien sûr, au niveau mondial? Aya Nakamura, Angèle et Stromae, loin devant les autres. Bon, bah super, les gars, il nous les faut. Mais sachant que Angèle et Stromae sont belges et que le second n'est pas en grande forme, bon, bah très bien, il nous reste donc Aya Nakamura. Et Aya Nakamura, il nous la faut absolument. Et de toute façon, c'est elle qui explose les ventes à l'international. Bon, très bien, il faut la contacter. Quelle est la chanson française la plus connue au monde? Bah, La vie en rose d'Edith Piaf. Et ben voilà, on y est, les gars. Aya Nakamura, à qui va chanter du Piaf? La France, l'Afrique, les autres suivront. C'est l'heure du brunch, non?
Thank you.
L'anarchie n'est pas contre l'autorité. La reconnaissance d'une autorité naturelle basée sur le savoir et la capacité de l'individu est inévitable. Il serait absurde de nier l'autorité en soi. Peut-être que ce qui illustre le mieux cela est ce qui arrive dans une société que l'on pourrait appeler originalement anarchiste, c'est-à-dire les sociétés primitives où l'État n'existait pas. Dans ces sociétés primitives, il y a un pouvoir politique et de l'autorité, mais ce n'est pas une autorité basée simplement sur la compétence. Le meilleur chasseur détient l'autorité quand il s'agit de chasser. Celui qui connaît le mieux les qualités curatives des plantes détient l'autorité quand il s'agit de soigner un malade. Mais il s'agit en premier lieu d'une autorité partielle. Deuxièmement, temporelle. Troisièmement, elle n'ajoute rien au-delà de l'exécution même de la tâche sociale. Le fait que je sois le meilleur chasseur dans un groupe me donne l'autorité quand il s'agit de chasser un bison, par exemple. Mais lorsque cette tâche est accomplie et que nous retournons au campement, mon autorité est terminée. Elle ne peut se transférer à une autre tâche et ne me donne aucun avantage dans le partage de la chasse. Cela est un exemple de ce que l'anarchie défend comme autorité légitime. Un anarchiste ne peut nier l'autorité d'un ingénieur quand il s'agit de construire un pont, mais ce qu'il peut contester est l'autorité de ce même ingénieur, élu député, qui décide de donner son avis sur l'art, ou sur l'éducation, ou la santé, ou sur la politique en général.
Who goes there?
You like it. Old Nasty Dan was the meanest man I ever knew. He'd stomp and scream and be real mean the whole day through.
Yeah?
He'd frown a bunch, he ate nails for lunch and he'd never laugh.
Well, I'd like him.
He'd growl and yell and I heard tell he never took a bath.
Wow.
Nasty Dan.
Nasty Dan.
Was a nasty man.
Yeah?
Hard to understand that Nasty Dan.
Yeah.
Now Nasty Dan was a nasty man the whole day long.
Good for him.
He'd go where he could and he'd try real good to make things go wrong.
Oh, yeah.
He'd jump for joy when a little boy would trip and fall.
Really mean.
And the only words that he ever said were, I don't like you at all.
Yeah,
nasty
right on.
Dan was a nasty man. Hard to understand that Nasty Dan. Now here's the best part, it's about a girl named Nasty Pearl.
Oh, she sounds okay too.
Nasty Pearl was a nasty girl who met Dan somehow.
Yeah.
She said, you're like me, rotten as can be, let's get married now. So they went and they did and had a nasty kid and I must confess that Dan pretty much leaves everybody alone now and he doesn't bother anybody anymore. 'Cause he just lives in his nasty old house with his nasty old wife and his nasty kids in nasty happiness.
Far out.
Nasty Dan, he's a happy man.
Yeah.
Hard to understand that Nasty Dan.
Wow, that was really great.
You like
and
that?
Say, aren't you Johnny Trash?
Cash. Have a rotten day.
Vous êtes toujours sur Radio MDM 93.8 à Banos. Bon, il faut bien que je le reconnaisse, mais c'est vrai, je me suis trompé. J'ai fait une erreur, et pas qu'un peu. J'avais pronostiqué la défaite du PSG en quart de finale de Coupe d'Europe, et v'là type qui se qualifie pour les demi, ces cons-là. Et peut-être même qu'ils vont se retrouver en finale. Bon, il est vrai que cette année, ils ont un véritable entraîneur, et je dis pas ça parce qu'il est originaire des Asturies, la plus belle des provinces ibériques, d'où proviennent des gens d'une rare noblesse, beaux physiquement, mais surtout de l'intérieur, d'où émane une force de caractère, une justesse de l'esprit et les sentiments les plus nobles qu'il m'ait été donné de croiser dans ma longue vie de décaphonique. Bon, d'ici le 1er juin, il peut encore s'en passer des choses, mais voilà, nos Parisiens qataris en bonne voie tout de même. Et tant qu'à m'obliger à m'excuser, autant aller au bout, voire gagner cette putain de coupe aux grandes oreilles. Depuis 2011 et plus d'1,5 milliard d'euros dépensés, il serait raisonnable de rentabiliser l'investissement. Quoique même en perdant, on parle d'une valorisation du club achetée 70 millions d'euros et qui vaudrait aujourd'hui plus de 4,5 milliards d'euros. Ah, pour faire du fric, ils s'en sortent pas mal des Touaregs, hein. Bref, on verra bien. Et ne me parlez pas de mauvaise foi, hein. Ça va m'énerver.
celebrate and have a good time.
Celebration.
We're gonna celebrate and have a good time.
It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure?
To last throughout the years.
So bring your good times and your laughter too. We gonna celebrate your party with you. Come on now.
Ah oui, alors le syndrome du larbin ou larbinisme est un comportement pathologique visant à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. Ce syndrome diminue les capacités d'analyse du larbin et se traduit par un blocage psychologique l'incitant à agir de préférence contre ses propres intérêts au profit de ceux qui l'exploitent. L'amour démesuré qu'affiche le larbin à l'égard des patrons, des rentiers ou des milliardaires est l'acte de foi qui structure son discours. Le larbin agit sans discernement de ce qui pourrait être bon pour lui. Il intellectualise le débat pour tenter de nous convaincre que prendre chez les riches est toujours la pire des solutions, quand bien même il en serait bénéficiaire. Les arguments économiques qu'il invoque inlassablement n'ont pas servi à forger sa conviction. Le syndrome du larbin est malheureusement une vocation qui se trimballe dès le plus jeune âge et contre laquelle, dit-on, il n'existe aucun remède. Le larbin n'a pas choisi d'aimer les riches. Il aime les riches parce qu'il est un larbin. De tendance nettement libérale, le larbin est celui qui vous vante les bienfaits du bouclier fiscal, alors même qu'il ne paye pas d'impôts. C'est encore le même larbin qui voulait réduire ou supprimer l'impôt sur la fortune, maintenant supprimé, merci Manu, sachant qu'il ne sera jamais concerné par cette mesure. Les victimes du syndrome n'ont pas de conscience politique. Ils votent instinctivement dans l'intérêt de ceux qui l'exploitent pour s'attirer leur bienveillance. Le larbin estime que l'argent lui fait défaut est beaucoup plus utile dans le coffre d'un riche qui pourra ainsi le réinvestir beaucoup plus utilement qu'il ne l'aurait lui-même dépensé. Le larbin cautionne tous les sacrifices et les plans d'austérité dont il pourrait être l'objet, comme la baisse des salaires ou encore l'augmentation de l'âge de la retraite, même si son travail ne lui convient d'aucune façon et que ses maîtres ne lui offrent aucune perspective d'améliorer sa condition.
Bonita.
Théories principales s'affrontent pour expliquer l'origine du syndrome, la thèse génétique et la pathologie mentale. Alors après des siècles et des siècles d'esclavage et de féodalité, les larbins pourraient être le produit d'une sélection artificielle des soumis par leur maître. Selon cette hypothèse, le mécanisme en œuvre serait similaire à la sélection des animaux domestiques, chiens, chevaux, bœufs, mais directement appliqué à l'homme. Pour les tenants de la pathologie mentale, le caractère héréditaire n'est pas retenu. Il s'agirait plutôt d'un trouble qui se développerait dès l'enfance. Le processus s'aggraverait au passage à l'âge adulte. Lorsque le sujet prend conscience de la médiocrité de sa condition, le larbin développerait des stratégies inconscientes visant à restaurer un équilibre cognitif pour justifier l'acceptation de sa subordination. Le larbin finit par s'identifier à ses maîtres en s'imaginant appartenir au corps social qu'il exploite. Le larbin réagit vivement à toute discussion qui ose remettre en cause les privilèges des plus fortunés. Incapable de se livrer à une argumentation convaincante, ses messages distillent la peur et les intimidations dont il est l'objet. En réaction, le larbin brandit instinctivement une succession de termes caractéristiques qu'il essaye de glisser dans son discours, tels que communisme, bolchevisme, tirage vers le bas, isolement, dictature socialiste, millions de morts, ruissellement. Le syndrome du larbin ne prolifère pas seulement chez les plus démunis, intellectuellement, il affecte une large fourchette de la population, sans corrélation apparente avec le niveau d'études. 20% de la population pense faire partie des 1% les plus riches. Ce dernier sondage est totalement vrai. De là à penser que le larbin est totalement con, il y a un pas que je n'oserais pas franchir.
Yeah.
On le voit en passant par les landes désertes, vrai Sahara français poudré de sable blanc, surgir de l'herbe sèche et des flaques d'eau verte d'autres arbres que le pin avec sa plaie au flanc. Car pour lui dérober ses larmes de résine, l'homme avare bourreau de la création qui ne vit qu'aux dépens de ceux qui l'assassinent, dans son tronc douloureux, ouvre un large sillon. Sans regretter son sang qui coule goutte à goutte, le pin verse son baume et sa sève qui bout et se tient toujours droit sur le bord de la route comme un soldat blessé qui veut mourir debout. Le poète est ainsi dans les landes du monde. Lorsqu'il est sans blessure, il garde son trésor. Il faut qu'il ait au cœur une entaille profonde pour épancher ses vers, divine larme d'or. Ainsi, pour rendre hommage à cet arbre local qui fleure bon les vacances sous les effluves iodées, je me suis fait tatouer sur la peau comme un Graal ce symbole iconique de mes terres adoptées. Va, continue ta route, voyageur indompté, vole encore et encore vers des plages exotiques, photographiant là-bas des décors imparfaits, tu détruis ta maison, pensant la visiter. Arrête tes conneries, tu vis au paradis, arrête de chercher ce que tu as sous les yeux, respire avec bonheur ces essences terpéniques, tu verras le bonheur, c'est aussi pour les gueux. Remercie le capitaine tout dodécaphonique d'enchanter tes oreilles sur Radio MDM. Écoute sur le zinc, écoute sa musique. Tu oublieras très vite tes soucis, tes problèmes. Et comme je ne peux finir sans dire une saloperie, en usant de gros mots ou de contre-pétrie, je vous souhaite le meilleur dans cette drôle de vie. Que vous soyez idiots, larbins, vous êtes tous pourris. sur le zinc avec le capitaine de Décaphonique sur Radio MDM. Sonny Liston est champion du monde des poids lourds depuis 1962. C'est le boxeur le plus voyou et le plus intimidant de son époque. Une vraie brute que l'on surnomme le Grand Ours. Il est féroce, il est indestructible. Il a appris à boxer dans le pénitencier de l'État du Missouri alors qu'il purgeait une peine pour vol à main armée. Il est dépeint par les journalistes afro-américains comme un gorille ignorant. Pourtant, il a su se faire un nom de légende dans le monde de la boxe. Il est parvenu à mettre KO Floyd Patterson, l'ex-champion du monde, deux fois au premier round. Un exploit. Le Grand Ours va combattre Cassius Clay. Bientôt Mohamed Ali, boxeur agile et cabot. Les deux boxeurs sont diamétralement opposés. C'est un combat entre un chêne et un roseau. Un combat qui attise la curiosité et rassemble les foules. La presse s'en donne à cœur joie, les paris fusent. Et Cassius Clay sait alimenter la polémique et se maintenir sur le devant de la scène. Et comme il n'est pas avare de vantardise et d'arrogance, il ne manque pas de provoquer son adversaire la veille du combat. Ainsi, Sonny Liston, probablement dans les bras d'une prostituée, est réveillé par les journalistes. On veut entendre sa réponse aux propos de Cassius Clay. Ce dernier a déclaré à la presse « Après le combat, je vais m'acheter une jolie maison et j'utiliserai la peau de Sonny Liston pour faire un tapis d'ours, où je le donnerai au zoo local après l'avoir battu. Le sang de Sonny Liston ne fait qu'un tour, il va lui montrer au gamin de Louisville ce qu'il a dans le ventre. » Le public est convaincu de la victoire du Grand Ours. Le contrat du premier combat est négocié, l'affrontement aura lieu à Miami Beach, Floride, le 25 février 1964. Le Grand Ours affrontera le pourfendeur de la ségrégation raciale.
Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces se fue para malgastarlo. Una semana de juerga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando cañón, lere, lere, lere.
Y no estaba muerto, no, no.
Y así sigue la historia. Pero al cabo de unos días de haber desaparecido, escucha, encontraron a uno muerto. Muertecito muy, muy, muy parecido. Le hicieron un gran velorio, le rezaron la novena, le perdonaron su deuda y le enterraron con pena.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Que no, que no.
Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando cañón, lere, lere, lere.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Que no, que no, que no,
y no estaba
no.
Muerto, no, no.
Chévere, que chévere. Pero un día se apareció lleno de vida y contento, diciéndole a todo el mundo: ¡Hey! Se equivocaron de muerto, qué lío el que se formó. Esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no, no quiere dormir con muerto.
No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda.
A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario, tú ven.
No estaba muerto, estaba de parranda.
Ya iba muerto, no anda, los muertos no carburan. Tú vivo y con tremenda sabrosura, papá.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Estaba tomando cañón, lere, lere, lere.
Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Chévere, que chévere.
Chévere.
Chévere, que chévere.
Chévere.
Chévere, que chévere.
Chévere.
¡Qué bueno! Esos metales reciclados. en la Cruz Blanca, oye.
Yo estaba muerto, estaba de parranda.
Pone la saquilla a la guitarra pa' que suene. Pone la saquilla a la guitarra pa' que suene.
Yo estaba muerto, estaba de parranda.
Se fue pa' la Argentina con Serrat y el primo Sabina, ole.
No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no.
Chévere que chévere, chévere. Chévere que chévere, chévere. Chévere que chévere, chévere.
Chévere que chévere, chévere.
Lors du premier combat, Sonny Liston, enragé, est en colère. Il cherche à mettre son adversaire KO au premier round et il commence fort. Il veut le rétamer, se venger de l'humiliation qu'il a subie. Il veut lui faire mordre la poussière sans lui laisser la moindre chance de rester sous les projecteurs. Cassius Clay fait son petit malin. Il sera bientôt humilié et vite oublié. Sonny Liston se démène comme un taureau. Mais Cassius Clay esquive une à une toutes ses attaques. Il danse, il saute, il est léger et agile. Plus le premier fonce, plus le second s'échappe. Plus le premier se fatigue, plus le second s'amuse. Cassius Clay est bien décidé à faire sortir Sonny Liston de ses gonds. C'est son talon d'Achille. Pour le faire tomber, il faut le rendre foudrage et le laisser s'épuiser. Ainsi, à chaque fin de round, Cassius Clay se tourne vers les journalistes et bâille ostensiblement. Ce match paraît trop facile pour Cassius, qui se pavane, et Sonny ne décolère pas. Ses attaques sont de plus en plus vaines. Il paraît de plus en plus lourd et maladroit face à son adversaire de plus en plus méprisant. Mais le match tournant débâcle. Cassius Clay ne voit plus rien pendant deux rounds. Sonny Liston se blesse à l'épaule et pour achever le tout, au septième round, Sonny Liston ne se lève pas de son tabouret. Pour la première fois de sa carrière, devant une foule de spectateurs incrédules, le grand ours abandonne un match. Cassius Clay est déclaré vainqueur par KO technique. La honte! Le monde de la boxe reste sur sa faim. Le combat tant attendu est un fiasco. La légende et la future légende de la boxe n'ont pas été à la hauteur.
celebrity.
Toujours sur Radio MDM 93.8 à Bano. Les médias n'en finissent pas de se moquer du match. Ed Sullivan déclare dans son émission « J'ai vu le combat à Liston Clay, c'était la pire bataille de tous les temps. Je jure que les Beatles pourraient les battre tous les deux, sans blague. » L'orgueilleux Cassius Clay n'en ferme plus l'œil de la nuit. Il ne peut pas rester sur cet échec. Il doit absolument battre Sonny Liston et montrer sa supériorité au monde entier. Ainsi, un deuxième combat est organisé à Lewiston, dans le Maine, le 25 mai 1965. Et cette fois-ci, les deux adversaires ont bien intérêt à se battre jusqu'au bout pour sauver leur honneur. Cassius Clay est devenu Mohamed Ali et il est bien décidé à couvrir de gloire ce nouveau personnage qu'il a créé. Ce jour-là, les journalistes se bousculent dans la salle. Tout le monde veut connaître l'issue du match Liston-Ali. La cloche du ring retentit, les spectateurs ne sont pas encore tous assis. Ceux qui ont pris place sont très attentifs et il fallait l'être. Les projecteurs illuminent le ring, les caméras des télévisions sont braquées sur les combattants. Quelques millièmes de secondes vont marquer l'histoire de la boxe à jamais. Quelques instants de rien, un geste que personne n'aura vu et qui fera couler l'encre à flot pendant des décennies. Le coup de poing fantôme de Mohamed Ali. En effet, Sonny Liston se rue immédiatement sur son adversaire pour en finir vite, mais Ali l'esquive et le dépasse d'une droite rapide. Si rapide que nul ne la voit. Si rapide qu'il faut voir Sonny Liston terrassé pour y croire. Si rapide qu'aucune télévision ne peut retracer le mouvement. La victoire de Mohamed Ali est éblouissante et fracassante. Le grand tour, c'est KO dès le début du premier round.
I just feel like to go straight into Black Sabbath and that's like giving someone a massage and kicking them in the face.
Yeah, all right, let's fucking do it. Who wants to kick in the face? The people have spoken, Ren.
Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields the bodies burning, as the war machine keeps turning. And hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, God, yeah. Killing in the name of.
She wouldn't help me with my mind. People think I'm insane because I'm frowning all the time. All day long I think of things and nothing seems to tell his back. Think I'll lose my mind if I don't find something to pacify.
Darkness will stop turning, ashes where the body's burning. the power. Hand of God has struck the hour. In the fields, the body's burning. On their knees, the war pigs crawling. Death and hatred to mankind. And now they do what they told you. 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 Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me.
Depuis que j'ai eu ma première meule, on m'a dit « c'est dangereux, trop rapide, pas de protection, je sais tout ça ». J'y ai pensé, j'y pense, mais sachez aussi que quand je roule, je suis le plus heureux du monde, que je transpire ou que je grelotte. J'ai acheté ces motos pour assouvir des rêves. Un jour, quand je serai vieux, très vieux, et que je ne pourrai plus rouler, elles seront dans mon garage comme un trophée au milieu de mes souvenirs, et peut-être mes petits-enfants me diront en la regardant « vas-y Pépé, raconte ». J'ai été trempe, sec comme un rat. J'ai eu froid, chaud. Je suis tombé, je me suis relevé, j'ai guéri. J'ai aussi ri à gorge déployée dans mon casque, tout seul comme un damné. J'ai crié et chanté mille fois. Parfois aussi, j'ai pleuré. J'ai vu des endroits merveilleux et vécu des expériences inoubliables. J'ai ressouillé quelquefois des courbes qui n'en finissaient pas et d'où l'on sort suant et ankylosé par la trouille. Je me suis arrêté mille fois pour voir des paysages, des nuages, des oiseaux. J'ai ressenti ce sentiment de faire partie d'un clan qui se salue, se respecte, prennent soin les uns des autres, avec leur code. La moto n'est pas qu'un objet métallique, elle est la partie libre de mon âme et de mon esprit. Et quand on me dit de me séparer de ma moto et de devenir sérieux, je ne réponds plus, je tourne les talons et la poignée d'accélérateur et je souris. We'll be right back. Je parle, et j'ai tellement parlé ici avec le gourmandasse en plus aujourd'hui. J'aime parler, je ne sais pas pourquoi, ou plutôt si, pour faire passer le message, pour exister, je parle donc je suis un bavard. Depuis toujours la société, tantôt me le reproche, tantôt m'encourage. À l'école, bon élève, mais bavard. À l'armée, gonzo, ferme ta gueule. Au boulot, c'est bon, on a compris, même ma femme et mes gosses. Et enfin, un jour, une femme me dit, j'adore la voix, j'adore ta voix. Tu devrais chanter ou faire de la radio. Et alors, les nuages se sont écartés. Un rayon de soleil a transpercé, puis un autre et un autre. Et aujourd'hui, je suis là, en train de vous parler par le truchement des ondes radiophoniques, et je me plais à penser que vous êtes nombreux, quelques dizaines, voire peut-être quelques centaines. Et il est tellement bon de savoir que ma voix est entendue, voire écoutée, et qu'elle est notre seul lien. Le bonheur étant complet quand, au hasard d'une rencontre, on reconnaît ma voix, ou du moins celle du capitaine de Décaphonique. C'est délicieux. Hélas, même les meilleures chansons ont une fin, et cette fabuleuse émission qui est sur le zinc, quand bien même elle serait la 51e, ne déroge pas à la règle, et je me dois donc, comme le stipulent toutes les conventions radiophoniques mondiales, de vous remercier de m'avoir suivi, de vous souhaiter le meilleur possible pour des siècles et des siècles, et comme dirait un chevalier au retour de la guerre, harassé et suant dans son home, à la vue d'une burette d'huile ou de graisse, peu importe, maraud, dame, notre seigneur vous est en sa garde, ou plus communément, salut maintenant. C'était Capitaine Dodécaphonique sur le Zinc.